Bah, laisse-moi.
Bon, alors ce soir, nous allons prendre un court passage et il y aura trois versets qu'on va voir. Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc, et alors, c'est vrai que ce chapitre est assez long, mais il y a tellement des événements, des histoires qui se suivent que là, on arrive vraiment au dernier au dernier verset, et je vous propose de lire donc dans Marc au chapitre 6, les versets 53 à 56. Si quelqu'un veut bien lire ces versets. Marc 6, 53, 56.
Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Gésarète et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
Ok, merci. Alors je vous avoue que quand j'ai lu ces trois versets, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de ces versets, et il semble au premier abord qu'on ne voit pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire. Nous avons la même histoire dans Matthieu au chapitre 14. Je vous propose de le prendre aussi, ces deux versets. C'est le même fait, c'est la même histoire. Dans Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36, quelqu'un veut le dire? Et nous avons la même histoire aussi dans Jean chapitre 6, verset 22, mais on ne le lira pas.
Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.
Oui. Alors c'est vrai, ce récit se trouve donc après la traversée de la mer. Rappelez-vous, on avait vu ça mardi dernier. Les disciples donc arrivent à Génézareth, et ce qu'on peut dire, c'est que Génézareth était une plaine fertile au sud-ouest de Capernaum. Alors, lorsque les gens apprirent que Jésus venait d'arriver, eh bien, on a vu qu'ils lui amenèrent tous les malades pour que Jésus puisse les guérir. Alors, le fait de toucher le bord de son vêtement nous rappelle bien sûr l'histoire qu'on connaît, l'histoire de la femme qui avait cette perte de sang, qu'elle-même, alors cette histoire elle est dans Matthieu au chapitre 9, verset 20, je ne l'ai pas noté, hein, mais elle aussi, dès qu'elle avait touché le bord du vêtement du Seigneur, elle a été guérie. Alors, ici nous avons ce fait, hein, bien qu'il reconnaissent Jésus comme un grand guérisseur, ils ne le reconnaissent pas comme pleinement qui est Jésus. Et la dernière fois, on avait vu aussi que les disciples étaient avec Jésus, mais ne le reconnaissaient pas vraiment pleinement comme Dieu lui-même. Dans ces trois versets, qui est court, et dans ce passage, nous voyons que Jésus fait preuve ici d'amour, qui fait preuve de compassion, et d'une grande générosité envers les malades. Oui, Jésus manifeste un grand amour aujourd'hui encore pour chacun de nous. Dieu est amour et son amour ne change pas. Que ce soit du temps de Jésus quand il était sur la terre ou que ce soit maintenant, Dieu vraiment nous aime d'un grand amour. Même si parfois on ne le voit pas, mais il nous aime. On est encore ici dans l'autorité de Jésus, hein. Rappelez-vous, juste avant, Jésus venait de marcher sur les eaux, hein, quand il allait à la rencontre de ses disciples. On avait vu et on avait dit qu'il avait l'autorité sur les éléments. Et encore ça, avant justement la traversée de la mer, il y a eu la multiplication des pains. Là aussi, on a vu le miracle que Jésus avait fait. Donc, on voit vraiment que Jésus avait l'autorité sur sur les aliments, sur les éléments aussi. Et là, on va voir que Jésus a aussi l'autorité sur, sur la maladie. Alors, c'est vrai que dans ce texte, il est un peu particulier. Il est question de Jésus et il est question de centaines de personnes qu'on ne connaît pas. Il y a même pas, ils n'ont même pas nommé. Voilà, juste, c'est Jésus et les malades. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à Génézareth et ils amarrent. Alors, c'est vrai que dans ce passage, on va peut-être partager, on va le voir, il y a quatre étapes. La première étape, c'est effectivement, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils accostent. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, au verset 54, dès qu'ils sortent de la barque, eh bien, Jésus, il est reconnu et sa renommée s'était vite propagée, son autorité aussi. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est dans le verset 55, on peut le reprendre, ce verset 55. Donc, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourir tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Ça, c'est le verset 55. Donc, cette étape évoque ici un influent de malades qui sont sur des brancards. Là où Jésus allait, eh bien, on lui a amené tous les malades, on lui a amené tous les infirmes, toutes ces personnes allaient à Jésus justement pour être guéries. Alors, Jésus parcourait toute la région. Et à cette époque, c'est vrai qu'il le faisait à pied, il n'y avait pas de voiture. Je ne sais pas si on réalise un peu tous les kilomètres que le Seigneur a dû faire. Et parfois, je me disais, nous, on a la voiture et faire quelques kilomètres pour venir au culte, ou pour venir à la réunion de prière, ou pour venir à l'étude biblique, des fois, on se force. Mais enfin, en tout cas, là, on voit que les gens, ils venaient à pied et ils allaient apporter tous les malades à Jésus. Et ce qui me frappe, c'est l'envie, l'enthousiasme de ces personnes-là qui amènent les malades. Peut-être qu'ils les apportent aussi, comme on a lu, sur des brancards, peut-être sur leur dos, sur leur épaule, ou même sur leurs bras. Des infirmes, ils viennent les apporter à Jésus. On sent vraiment, de la part de ces personnes-là, un amour aussi pour les malades. Alors peut-être avaient-ils aussi une excitation joyeuse d'amener leur bien-aimé, bien sûr malade, à Jésus. Qui n'a pas à cœur d'amener, en sachant que les miracles que Jésus faisait, qui n'a pas à cœur d'amener quelqu'un qui est malade au pied de Jésus? Donc eux, on voit qu'ils ont vraiment à cœur. Hein. Et c'est vrai que personne ne voulait aussi peut-être passer à côté du Seigneur, de ce que lui pouvait faire. Ils ne voulaient pas rater cette occasion-là. Et je crois que c'était pour eux une grande occasion d'aller à la rencontre du Seigneur. Et je me dis, parfois aussi pour nous, c'est une joie aussi d'aller à la rencontre du Seigneur. Alors, la quatrième étape, c'est le verset 56, et on peut le lire aussi. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. En quelques lieux ou en tout lieu, Jésus se rendait donc dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, les hameaux, dans tous ces lieux, on mettait les malades et on les amenait sur la place publique. Alors en écrivant cela, je me disais, mais imaginons qu'on amène tous les malades à la place de Verdun. C'est ce qui se faisait à l'époque, parce que les places publiques, avant, c'est là où on faisait, où les gens se réunissaient, où on faisait les marchés. Mais là, ils amènent tous les malades à la place publique. Moi qui étais à l'hôpital là ces jours-ci, il y en a des malades. Et la place de Verdun serait vite remplie. Et imaginons le Seigneur à la place Verdun en train de guérir les malades. Alors, on va essayer de revoir ça en détail. Alors, que se passe-t-il? Ce qu'on peut dire, c'est que ici, c'est un résumé qui ne dit pas tout. Mais Marc révèle qu'on supplie Jésus de permettre, de pouvoir le toucher, de toucher la frange de son vêtement. Alors, c'est vrai que je lisais dans d'autres versions qu'il est dit qu'on peut toucher aussi le bord de son vêtement. Toujours dans le verset 56. Hein. Et en réfléchissant un peu, j'ai réalisé que ce passage, pour moi, eh bien, avait une grande signification merveilleuse. Alors j'ai fait le rapprochement avec le psaume 84, verset 11. Alors, c'est là que je ne l'ai pas marqué sur ces feuilles, psaume 84, verset 11, parce que là aussi, c'est juste hier ou avant-hier que ça m'a, avant que je publie les feuilles, ça m'est venu à l'esprit. Et voilà qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 84, verset 11. Il nous est dit, « Vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. » Alors, ce verset, eh bien, nous donne une perspective importante de la présence de Dieu. Lorsque le psalmiste parle d'un jour dans tes parvis, eh bien, il ne s'agit pas de se trouver dans un bâtiment ou d'admirer une pièce d'architecture religieuse. Non, non. Il parle de profiter de la présence de Dieu. Vaut mieux habiter un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et tout comme il est dit, toujours dans ce psaume 84, au verset 3, il est dit « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. » Alors, Dieu est si bon qu'un seul jour avec lui vaut mieux que mille ailleurs. Rien que d'être sur le seuil, rien que d'être sur le pas de la porte, rien que de sentir, rien que de toucher le bord ou la frange de la présence de Dieu, eh bien, c'est mieux que d'être ailleurs. Vous savez, Spurgeon, il disait comme ça, je me le suis noté, il disait, je préfère 5 minutes de communion réelle avec Christ que 50 ans d'activité religieuse sans lui. Vaut mieux 5 minutes avec le Seigneur que de 50 ans sans le Seigneur. C'est ce que Spurgeon disait. Alors, les personnes, les habitants de Génézareth ne voulaient pas, et je comprends, ne voulaient pas rater ce moment, avec ce rendez-vous avec le Seigneur. Alors ils y allaient tous, et ils lui apportaient tous les malades. Et j'étais en train de penser, ce soir, vous qui êtes là, vous n'avez pas voulu rater aussi ce rendez-vous avec Jésus-Christ. Chaque fois que vous êtes au rendez-vous avec Jésus, c'est comme si on veut toucher le bord de son vêtement. Que vous sentez sa présence, que ça soit quand vous êtes vous-même, que vous étudiez la parole de Dieu tout seul, c'est un rendez-vous, c'est un peu comme si vous touchiez le Seigneur. Que ça soit aussi dans les réunions de prière, que ça soit dans les études bibliques, ou les cultes, ou même la louange, ou la communion fraternelle. C'est un rendez-vous aussi. Et est-ce qu'on a le même enthousiasme, nous, qui venons dans ces réunions, que eux, ces gens, qui avaient à cœur d'apporter les malades? Est-ce que j'ai à cœur, moi aussi, quand on vient peut-être pour prier, ne serait-ce que pour les malades, est-ce qu'on a le même enthousiasme? C'est des choses qui me sont venues. Donc c'est important aussi. Et je crois que le Seigneur, il est touché par de telles attitudes. Quand on vient à lui, quand on a cet enthousiasme de vouloir aller à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'on imagine que Jésus s'approche de ce qui est couché. Et là aussi, je ne peux que penser que Jésus, aujourd'hui, eh bien, il veut s'approcher de ceux qui ont besoin de lui. Jésus s'est laissé toucher. On lui a amené. Mais ces personnes étaient souvent couchées Donc c'est lui-même qui a dû s'approcher aussi. C'est Jésus qui a dû s'approcher. Et je crois que le Seigneur veut aussi s'approcher de nous. Marc donne ici un indice subtil de la piété de Jésus et de son attachement à la Torah, hein, à l'Ancien Testament. Les Juifs pieux de l'époque pensaient au commandement de Dieu quand ils voyaient ces cordons de couleur. Je vous propose de lire dans Nombre, on va voir. Nombre chapitre 15, versets 38 à 41, si quelqu'un veut le lire.
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Oui, merci. On peut peut-être lire aussi Deutéronome, chapitre 22, verset 12.
Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras.
Merci.
C'est ce qu'on appelle les phylactères.
Pardon ?
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les phylactères ?
Phylactères, c'est autour du...
Est-ce que vous en avez sur...
Vous en avez aussi sur le...
Ouais. Je m'étais noté, là, on pourra le voir peut-être après, on pourra y revenir peut-être à la fin, parce que je ne sais pas si on aura fini, mais au sujet de cette frange du bord de vêtement, c'est un vêtement qui a été porté carrément dessus. C'était une grande pièce d'étoffe qui était carrée, tout autour il y avait une frange de couleur bleue. Et ça rappelait aussi la couleur du ciel, hein. On reviendra peut-être voir là-dessus. J'ai oublié de dire, quand le Seigneur est touché, quand on amène les personnes à lui, et lui, il vient à nous. Je sais que dimanche, quand Alain a porté le message sur Noël, tu as parlé du proverbe, je l'ai noté, Proverbe 8, verset 17, où il est dit, je vais vous le lire, je ne l'ai pas noté. On peut le prendre peut-être. Est-ce que quelqu'un veut prendre 8, verset 17 ? Le proverbe 8, pardon, hein, là je reviens en arrière un peu.
J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent.
Voilà. Dieu aime ceux qu'il aime et ceux qui le cherchent, eh bien, il le trouve. Et là, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ce parallèle aussi dans ce qui s'est passé là, à Génézareth. On a amené Jésus. Jésus a été touché de ce qu'on lui amène et il nous aime. Il aime ceux que. Si on aime Jésus, lui nous aime. Dieu est amour. Mmh. Et voilà, je voulais faire un peu.
Dans le passage, quand le malade descend avec ses voisins qu'on ramène, ses amis, c'est le Seigneur l'a touché, l'amour que les amis avaient pour le malade, pour avoir monté le second toit.
Oui, les amis avaient cet amour, puisqu'ils l'ont ouvert le toit, ils ont passé par travers le toit, et tout. Tout à fait. Alors, j'ai pris ces passages-là de Nombre et de Deutéronome. Alors, c'est vrai que ici, si on revient dans notre texte, Marc n'insiste pas sur ça. Hein, il le mentionne vite fait. Alors, pourquoi se focaliser sur le toucher ? Alors, c'est vrai qu'à cette époque, on croyait que le toucher, le mal pouvait être guéri par la puissance magique, le fait de toucher quelqu'un. À l'époque, c'était comme ça. Mais ici, ce n'est pas un acte de magique. C'est pas un acte magique. C'est Jésus qui a autorité. Il a autorité sur la maladie. Tous ceux qui touchaient le vêtement, eh bien, étaient guéris. Et ce passage se termine par cette affirmation. Tous étaient guéris. Littéralement, ils étaient sauvés. C'est vrai qu'on passe vite sur ce texte, sur ces trois versets. On les lit très vite, mais ils méritent d'être mieux connus. Nous sommes devant un texte quand même qui est quand même riche. Ici, les projecteurs ne sont pas braqués sur une guérison particulière. Aucun personnage n'est nommé non plus. Il n'y a que Jésus qui est mentionné. Et Jésus, c'est vrai, ne fait aucune déclaration aussi aux malades. Il n'entre pas dans un dialogue avec tous ceux qui sont malades. Non. Un seul nom propre apparaît. C'est Génézareth. Les villes, les villages, les communes ne sont même pas nommées. Alors, ce qui est touchant, c'est qu'il n'y a aucune conversation non plus. Personne ne parle. On se dit, mais voilà, c'est une histoire sans parole. Pensons quand même que toutes ces personnes qui ont vécu cela, certains ont dû se lever de leur brancard, ils ont été guéris et ont vécu une nouvelle existence, une nouvelle vie. Vous vous rendez compte, ceux qui étaient paralysés toute leur vie, quand Jésus les a guéris. Peut-être que certains sont devenus disciples de Jésus. Quand Jésus guérit un cœur, eh bien, on devient une nouvelle créature. On se lève pour Jésus. On vit une nouvelle existence. Oui, c'est vrai que Marc ne le dit pas. S'il y a après les miracles, s'il y a eu des personnes qui sont devenues disciples, on ne le sait pas. Toujours dit, il y en a beaucoup qui ont été guéris. Et rappelez-vous l'histoire aussi des 10 lépreux. Jésus avait guéri les 10 lépreux. Tous ont été guéris. Mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Peut-être que là, il y en a qui se sont levés et qui ont suivi Jésus. Bon, mais ce n'est pas mentionné. Alors, moi, personnellement, je ne veux pas dire non plus que cela est arrivé. Mais on peut l'imaginer. Et je me dis, c'est pourquoi que ce passage est glorieux. Il y en a qui ont dû suivre le Seigneur. Nous devons vraiment mesurer la portée de ce texte. Il est riche. Ici, ces personnes ont pour Jésus une haute estime, sans pour autant savoir ce qu'il est, un peu comme le disciple. Il est considéré comme une star, là, Jésus. On veut l'approcher. Son autorité n'est pas humaine, son autorité est souveraine. Il est Dieu. Il a autorité sur toute chose. La seule présence de Jésus suffit à vaincre la maladie. Oui, Jésus, il est venu pour les malades. Je me souviens, il y a à peu près 40 ans, ici à Pau, on n'était pas à Génézareth, hein, Daniel Herman, pour ceux qui le connaissent, c'est un évangéliste. Alors peut-être certains se rappellent de lui, je ne sais pas s'il y en a... Jean, peut-être
Non, pas Daniel Herman.
Non. Bon, mais Daniel Herman a prêché sur Jésus en disant que Jésus était venu pour les malades, comme il est venu à Génézareth. Et moi, je n'étais pas malade physiquement, mais j'étais malade spirituellement. Bien que j'avais connu le Seigneur tout petit, j'étais malade spirituellement. Je me suis approché de Jésus et lui, il s'est approché de moi et il m'a guéri. J'étais plus le même. Avant, quand on me demandait, tu es sauvé? Oui, je me disais, je l'espère. Mais le jour où j'ai fait le pas, quand j'ai compris que Jésus m'aimait et qui était venu pour moi, qui était malade spirituellement, eh bien, j'ai dit oui, je suis sauvé aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, parce que lui, c'est lui qui s'est approché de moi. Alors, j'étais en train de penser, si toi aussi tu es malade aujourd'hui, spirituellement, eh bien, Jésus veut guérir encore ton cœur. Jésus, aujourd'hui, il est venu pour nous guérir, pour nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle. Rappelez-vous ce verset qu'on récite, oh, tant de fois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je me souviens, c'était pendant le 8 mai qui était là. On a fait 4 études. 4 études, c'était toujours sur Jésus est venu pour les malades. Et à la fin de chaque réunion qu'on faisait, il avait écrit un cantique en grosses lettres. Il le levait, il disait comme ça, le chant, il disait comme ça, oui, le sang de Jésus suffit pour te guérir. Le sang de Jésus suffit pour Dieu. S'il suffit pour Dieu, eh bien, il suffit pour toi aussi. Si le sang versé a suffi pour que Dieu nous permette d'être justifiés, eh bien, ce sang-là versé, il suffit pour moi.
Moi, j'ai été en fauteuil roulant et là, aujourd'hui, je marche, je fais tout normal. C'est le Seigneur qui m'a sorti comme ça, d'un moment à l'autre du fauteuil.
Ce que je veux dire, c'est que Jésus guérit aussi les malades physiques, mais il guérit aussi la maladie spirituelle. Il guérit nos âmes. Jésus est venu, il répond présent, il est venu sur la rive de Génézareth, comme tous ces gens qui ont accouru vers Jésus, qui ont pris l'initiative d'aller à lui, eh bien, aujourd'hui, faisons de même. Allons à lui. Toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas le toucher, mais on peut s'approcher. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus répond aux personnes qui vont à lui. Il ne nous abandonne pas. Et c'est aujourd'hui encore un jour de grâce. Or, je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes chrétiens depuis de longues années. Mais combien on a besoin de se remettre en question chaque jour. On a besoin de reconnaître Jésus dans toute sa plénitude. Dieu nous attend. Tout comme le Père a attendu son enfant. Vous connaissez très bien la parabole du fils prodigue. Jésus aime ceux qui le recherchent. Ici, Marc nous pousse à aller vers Jésus pour le salut. La guérison physique est bien incomplète et ce n'est pas ça qui touche Marc. Malgré, c'est vrai, le feu d'artifice qui est spectaculaire des guérisons qui se faisaient. La guérison illustre le salut dans le royaume de Dieu. Et vous savez, merci Seigneur, parce que la maladie n'aura plus de place lorsque Jésus reviendra. À Génézareth, les personnes guéries signifient un nouveau départ. Ils ont eu cette rencontre avec Jésus. Alors, on peut se poser une question. Combien ont fini de comprendre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Combien cela... alors, c'est vrai que cela, ce n'est pas dit, on ne sait pas le nombre. En tout cas, tout chrétien sauvé retrouvera une santé intacte dans le royaume des cieux. Et merci Seigneur, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a guéri tous les malades qu'on lui a apportés à Génézareth. Et certainement que d'autres n'ont peut-être pas eu l'occasion de venir. Peut-être qu'ils n'ont pas eu des personnes qui ont pu les amener. Nul doute que eux aussi auraient voulu être auprès de Jésus. Certains n'ont pas eu la possibilité d'être portés. Et ça me fait penser que parfois il y a des personnes qui sont seules qui sont abandonnés. Alors vraiment, que nous puissions être nous, être comme ces gens, les apporter à Jésus. Nous avons vu à la fin de la marche sur les eaux que cela, comment ça s'est terminé de manière peut-être peu flatteuse pour les disciples, parce que Marc, au chapitre 6, verset 52, Marc appuie sur le fait qu'ils ne comprirent pas qui était Jésus, parce qu'ils avaient un cœur endurci. Mais ce qui est extraordinaire, parce qu'ils avaient le cœur endurci, ils n'ont pas reconnu Jésus, les disciples, je parlais, là. Jésus comme le Messie, comme Dieu. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus ne jette pas l'éponge. Il ne rejette pas ses disciples. Au contraire, il continue à les amener avec lui. Dans cette histoire, n'oublions pas que les disciples sont arrivés avec Jésus, ils ont accosté. Après, on parle que de Jésus et des malades, et des gens qui amènent les malades. Mais les disciples, ils étaient là. Les disciples sont discrets dans ce passage des miracles que Jésus faisait. Ils sortent avec Jésus et ils le suivent, tout simplement. Oh, combien de fois nous avons besoin, nous aussi, peut-être, tout simplement, de suivre Jésus. Ils voient pourtant ce qui se passe, ils voient les miracles que Jésus fait. Ils sont à l'école du Seigneur. Un peu comme si Jésus leur offrait des cours de rattrapage. Ça existe, les cours de rattrapage. Eh bien, je me dis que nous aussi, nous avons besoin de cours de rattrapage. Être à côté de lui, c'est un peu comme si il leur dirait « Vous ne comprenez toujours pas qui je suis ?» Et la dernière fois, on a parlé que nous aussi, parfois, nous ne réalisons pas qui est réellement Jésus-Christ. Et dans ce qu'on voit ce soir, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est peut-être aussi ce que Marc veut révéler, qui est vraiment Jésus-Christ. Depuis le temps que nous sommes au Seigneur, comprends-tu qui est Jésus ? Comprenons-nous qui est Jésus ce soir, réellement ? Comment tu le vis ? Restes-tu à son école toujours ? C'est vrai que plus tard, les disciples vont comprendre et cela va porter du fruit. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils vont le servir plus tard. En tout temps, Jésus est un formateur qui est patient, qui nous aime. Il est pour nous aussi chaque jour patient, il ne change pas. Il était patient avec ses disciples, il est patient avec nous encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quel est le message de Marc 6, 33, verset 56 ? Je regarde mon heure, ça tourne. Jésus est l'autorité absolue sur la maladie physique et spirituelle pour tous ceux qui se tournent vers lui. Tournons-nous vers lui. Qui est Jésus pour nous ? Qui est Jésus pour toi ce soir ? À quoi ressemblent nos activités dans ma vie, dans ton église locale ? Oh, on est souvent, c'est vrai, focalisé sur ce qui ne va pas, sur nos problèmes, concentré dans ce qui nous chagrine. Ça oui. Mais Jésus, Dieu fait homme, qu'est-ce qu'il se plaît à accomplir parmi nous ? Vais-je rester le cœur endurci dans ma vie de tous les jours, dans mon église ? Est-ce que ma vie, une fois que j'ai compris qui est Jésus-Christ, est-ce que ma vie a changé ? Regardez les gens dans notre récit. Ils se mettent à courir en toute direction, dans toute la région, là où se trouve Jésus. Ils courent vers lui. Jésus se laisse approcher. Personne ne doit passer entre les mailles du filet. Eh bien, ceci me fait penser, quelle est notre préoccupation pour les âmes perdues? Rappelons-nous, l'ordre du Seigneur, c'est quoi? C'est d'aller partout et faire des disciples. Alors, une question. Hein? Est-ce que je dois prier pour les malades, pour les guérisons? Eh bien oui, bien sûr. Oh, quand je prie, ce n'est pas pour commander quoi que ce soit à Dieu, pour lui forcer la main ou l'obliger à exaucer nos prières, soi-disant dites avec foi. Non, pas avec cet esprit-là, mais prions en acceptant le timing de Dieu, pas le nôtre. Durant cette semaine, combien de fois j'ai crié à Dieu d'intervenir, d'apaiser la douleur de mon épouse. Parfois même, j'insistais, je criais, je disais, mais Seigneur, tu ne peux pas la laisser comme ça. Ouais. Je voulais que ça se passe de suite. Mais le Seigneur me connaît mieux que moi, je me connais. Et si parfois il nous fait passer par l'épreuve, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose. D'abord, un, qu'il n'est pas à notre disposition. C'est lui qui est Dieu, c'est pas nous. Mais dans son amour, et que je vois mon épouse maintenant qui est quand même mieux, je ne peux que le remercier. Et que je ne peux que lui dire, Seigneur, apprends-moi la patience. Même si ce n'est pas toujours comme je veux. Les disciples devaient apprendre la patience. Apprenons aussi la patience. Oui, prions en acceptant le timing de Dieu, que ce soit la guérison maintenant ou plus tard dans cette vie, ou seulement que quand notre corps sera ressuscité, eh bien que la volonté de Dieu se fasse, et pas la nôtre. Jésus lui-même, il a dit que ta volonté se fasse et pas la mienne. C'est lui qui décide. Rien ne lui échappe. Mais nous, gardons confiance. Comme nous avons vu dans notre passage, eh bien, les malades qui s'approchent de Jésus, leur foi n'était pas complète. Mais elle était bien orientée. Elles étaient orientées vers la personne de Jésus. Même s'ils ne le reconnaissaient pas, ils allaient à Jésus. Vous savez, la foi, elle est parfois comme un saut. Non pas un saut dans le vide, c'est un saut vers l'inconnu, tenant la main de Jésus-Christ. Il n'est pas question de rechercher l'exploit ou de nous focaliser sur nous-mêmes, mais nous devons tourner nos regards vers Jésus et aller plus loin avec lui. Nos yeux sont braqués sur qui? Notre notre texte aujourd'hui évoque plusieurs guérisons, mais il n'y a que Jésus qui est évoqué dans ce texte que nous avons lu. Les autres sont bien présents, mais ils sont tous en arrière-plan. Ils sont derrière. Et la dernière fois, on disait que quand Jésus il dit dans la barque qu'il voulait les dépasser, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, hein? Oui, laissons Jésus devant. Ne le laissons pas à côté ni derrière, mais laissons-le devant. Oui, Jésus, dans ce texte, eh bien, il n'y a que lui qui est mentionné. Quelle place est réservée à Jésus dans ma vie? Quelle place est réservée dans ta vie? Quelle place a Jésus dans ta vie? Est-ce que on le met en arrière? Ou est-ce qu'on le met devant? Est-ce que ma vie pointe toujours en sa direction? Est-ce que je ne suis pas enclin à me mettre moi-même en avant? dans beaucoup de situations? Est-ce que je ne suis pas obsédé dans mon bien-être? Est-ce que je ne suis pas toujours en train de prier, Seigneur, oh, fais ceci, oh, fais cela, donne-moi cela, permets-moi ceci, permets-moi cela? Je m'aperçois souvent dans mes prières, c'est un peu ça. Tout le temps en train de demander quelque chose à Dieu. Et par contre, quand il arrive quelque chose qui me déplaît, presque, bon, je ne le dis pas bien sûr, mais je trouve ça anormal. Est-ce que je ne suis pas enclin à me mettre d'abord en avant? Quelle place a Jésus dans ma vie? Quelle place Jésus a dans ta vie? Je termine. Quand on voit les guérisons dans les évangiles, pensons à la nouvelle création, au salut que Jésus nous a donné. Notre formation a pour but l'identité et l'œuvre de Jésus. Et Jésus, là, continue à vouloir former ses disciples. Eh bien, dans notre vie, Jésus veut nous former encore. Et nous avons besoin d'apprendre. L'apôtre Paul, il disait, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours. Oh, combien j'ai besoin de courir. Parce que nous ne croyons pas arriver. Nous avons toujours besoin du Seigneur. Nous avons toujours besoin d'apprendre de lui. Ouais. Jésus continue à former ses disciples. C'est bien loin des techniques de guérison que nous voyons aujourd'hui. Hein. La meilleure formation, c'est celle qui est centrée sur l'identité de Jésus et sur son œuvre salvatrice. C'est là que nous devons vraiment nous pencher. Le verset 56, il nous est dit qu'on portait les malades sur les places. Il ne se cachait pas. Ne nous contentons pas de venir à Jésus dans le secret. Ne nous isolons pas. N'ayons pas honte de notre foi. Venir à Jésus, c'est aller là où il se trouve. C'est-à-dire parmi les siens. C'est peut-être, vous voyez, dans l'église, là où il y a d'autres chrétiens, parce que le Seigneur, il dit que là, deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Si on veut aller à la rencontre du Seigneur Jésus, oui, on peut le rencontrer partout, certes, mais on n'est plus en crainte à le trouver parmi là où il y a d'autres chrétiens, que de se trouver au milieu des méchants. Vaut mieux habiter... vaut mieux habiter un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Si on veut rencontrer le Seigneur, c'est au milieu de chrétiens. C'est aussi apporter à Jésus les malades, les accompagner sur les places publiques, les amener au Seigneur. Ça me pousse et ça me dit, oui, il y a des personnes, peut-être même dans l'église, qui sont seules, qu'on ne visite pas. Et je demande pardon au Seigneur parce que parfois c'est peut-être un manque d'amour. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me frappe, c'est l'enthousiasme de ces gens-là, qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui amènent les personnes à Jésus. Et c'est un exemple pour nous. Amenons à Christ les âmes qui sont perdues. Voilà en gros ce que je voulais partager ce soir de ces quelques versets. Mais si on approfondit, c'est un passage merveilleux. Ces guérisons à Génézareth. Tout n'est pas dit. Mais vous savez, Marc ne pouvait pas tout dire. dans la Bible, il est dit dans Jean, je crois que à la fin de l'évangile, il est dit que si on devait dire tout ce qui s'était passé, ben on pourrait pas. On peut le prendre peut-être, que je ne dise pas de bêtises. C'est à la fin de l'évangile de Jean. Quelqu'un là, il peut le lire, Jean. Je crois que c'est. Je l'avais noté d'ailleurs.
21-25.
Ouais, 21-25. Il est dit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Ouais. Alors c'est vrai que Marc ne dit pas tout, ne dit pas s'il y a eu des personnes qui se sont levées pour Christ, qui sont devenues chrétiens. Non, c'est pas dit. Mais on peut le supposer, on peut l'imaginer. Le fait de simplement d'apporter quelqu'un, une personne à Christ, et on le voit. Combien de fois on peut accompagner quelqu'un et que cette personne se donne au Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Alors, ayons le même enthousiasme que ces gens-là. Voilà, je m'arrête là. Il est 8 heures. Peut-être que, juste, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose en quelques secondes parce que c'est vrai qu'on peut, on peut dire tellement de choses sur ce texte. Juste 2 minutes.
Tout à l'heure, tu as parlé de la guérison des lépreux. 10, un seulement est revenu. Mais ça valait le coup pour celui qui est revenu. Ouais. Ça valait le coup de guérir pour les 10. Donc peut-être que tous ceux qui ont été guéris ne se sont pas tous levés. Mais s'il y a un seul qui s'est levé pour Christ ce jour-là, ça valait le coup de les guérir tous.
Voilà. Voilà. Et je pense que là aussi, à ce moment-là, il y a dû avoir beaucoup de guérisons. Bon, là, ce n'est pas dit que quelqu'un est venu, mais ça valait le coup que Jésus vienne. Et si Jésus il est venu...
Pour nous aussi, hein, quand on distribue des traités, des invitations, bon, la statistique, c'est 1 sur 1000, en principe, qui vient à l'invitation. Pas qui se convertit, mais qui vient.
Qui vient.
Mais même si c'est 1 sur 1 million qui se convertit, ça vaut le coup.
C'est vrai. Voilà. Merci en tout cas. On va peut-être terminer par la prière. Alors.
Je dis là, vu que Dylan est venu avec Pauline.
Oui.
Ça
oui.
Fait deux. Ça a doublé.
Ah oui, ça fait deux. Oui.
Il faut qu'il y ait plus.
Eh bien, on peut. Donc, je peux terminer par la prière. Sinon, tu veux terminer par la prière.
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, te remercier, glorifier ton Saint-Nom, parce que ce soir encore, tu nous as bien montré que d'une part, tu es celui qui est l'Éternel, qui est majestueux, qui a toute autorité, qui peut guérir sans fin, simplement par le fait de toucher ton vêtement. Et cela, Seigneur, c'est une preuve que tu es venu dans ce monde, que tu es l'unique, parce que personne ne peut accomplir de telles choses. Toi seul, Seigneur. Et nous te remercions, parce que notre Dieu nous a prouvé que tu es l'élu, que tu es celui qui descend pour sauver la terre. Merci, Seigneur, déjà, pour cela. Après, oui, tu fais beaucoup dans nos cœurs. Oui, nous pouvons vraiment nous espérer en toi. Parfois, tu nous fais passer par la maladie, et nous voulons l'accepter, Seigneur, parce que nous acceptons tout le bien que tu nous donnes aussi. Et nous savons que tout cela a une utilité, une importance, telle l'arrière d'un canevas qui n'a pas encore révélé la face principale et la majestuosité de tout ce que tu peux, Seigneur, et que tu nous révéleras un jour. Alors, Seigneur, merci, parce que nous pouvons vraiment espérer en toi, compter sur toi, et oui, continuer à t'amener, à te porter toutes les personnes qui ont besoin d'être guéries de la maladie de la mort qui conduit à la mort, celle que tu guéris instantanément si l'on te donne son cœur, celle que tu guéris instantanément lorsque nous tournons vers toi et que nous implorons ton pardon parce que tu donnes ton pardon. Seigneur notre Dieu, merci pour cette soirée, merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir par ta parole. Nous voulons, Père Céleste, reconnaître notre infirmité et le besoin que nous avons de toi, le besoin que nous avons de te toucher, Seigneur, ne fût-ce que le port de ton vêtement. Oui. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi et nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu, et nous voulons encore, comme les gens, apporter les malades, tous ceux qui sont physiquement malades, mais aussi ceux qui sont spirituellement malades. Et merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et tu es celui qui peut tout. Nous te prions encore pour Joël, pour Jacqueline, pour ceux qui passent par des moments difficiles dans notre Église, des maladies physiques, mentales, spirituelles. Et vraiment, nous te les apportons, Seigneur, et nous te les remettons encore, Seigneur. Mm-hmm. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen.